Clémentine Larocque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maître de conférence à Sciences Po, spécialisée dans l'islamisme. Vous êtes aussi analyste au ministère de la Justice. Vous êtes l'auteur de trois livres. L'un est celui de géopolitique de l'islamisme, qui est paru dans la collection Que sais-je, et qui a été réédité après les attentats du Bataclan. Le deuxième, c'est justement Sortir du Bataclan, qui présente d'une part l'expérience d'un de vos amis qui était au Bataclan et qui décrit très clairement ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et vous en faites ensuite l'analyse. Et le troisième livre, c'est celui de l'islamisme au pouvoir, où vous analysez la façon dont les islamistes ont exercé le pouvoir dans trois pays, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc. Alors le sujet sur lequel vous travaillez est un sujet immense et on ne va pas le couvrir en 15 minutes. Je voudrais que nous commencions par préciser des termes sur lesquels il y a tellement, tellement d'ambiguïté. Le terme de djihadisme, c'est aujourd'hui, finalement, c'est un néologisme. Est-ce que l'on peut dire que c'est un terme qu'est-ce que ce terme recouvre exactement? On nous parle du petit djihad, du grand djihad. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le mot djihadisme veut véritablement dire actuellement?
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est un néologisme, puisque quand vous repensez aux attentats de septembre 2001, bien sûr, on ne parlait pas de djihadistes, hein, on parlait d'extrémistes, d'islamistes éventuellement, mais pas de djihadistes. C'est une terminologie qui correspond à une idéologie, d'où le isme, hein, djihadisme. Et effectivement, on a pris ce terme de djihad, qui n'est pas un mot radical, en fin de compte, mais qui évoque l'idée d'effort, hein, avec une racine trinitaire qui justement donc est à la base de ce mot. Et l'effort, le petit djihad, ce serait effectivement la guerre que l'on mène, alors offensive ou défensive, selon que l'on lit le Coran ou la Sunna, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le grand djihad, ce serait l'effort sur soi que chaque musulman doit exercer par rapport donc à sa vie. Le djihadisme, c'est effectivement cette idéologie qui place finalement le djihad au centre, hein, de valeurs qui sont défendues par des musulmans, je mets des guillemets bien évidemment, qui se pensent musulmans puisqu'ils ne se pensent pas djihadistes, justement, ils ne s'appellent pas djihadistes, ils s'appellent frères entre eux, moudjahidine éventuellement, hein, avec justement le moudjahidine, avec cette racine trinitaire qui revient du djihad. Et donc le djihadisme, ce serait effectivement ce mouvement qui utilise la violence pour pouvoir, le terrorisme donc pour nous, mais la violence pour eux, pour pouvoir répandre l'islam et le bon islam, le juste islam dans le monde entier.
Voilà, il y a souvent cette ambiguïté, et qui est une ambiguïté exploitée. Le djihad, ce n'est pas du tout ça. Ce djihad, c'est l'effort que l'on doit faire sur soi-même pour être un bon musulman. C'est ça, le vrai djihad. Et comme s'il n'y avait pas l'autre djihad, ce djihad dont nous avons tous peur, ce djihad...
Al-Qital. Le djihad Al-Qital. Voilà.
Et donc, ce djihadisme, qui n'est pas qui évidemment ne touche pas l'ensemble du monde musulman, mais qui en touche une partie, et c'est pourquoi... ce terme que nous avons tellement entendu, notamment à Charlie Hebdo, tout cela n'est bien entendu n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est le président Hollande arrivant à Charlie Hebdo. Première réaction du président Hollande alors qu'il a entendu dire que les assassins avaient crié Allahu Akbar. Ce déni de lien entre l'islam et ce qui s'est passé, même si tout l'islam évidemment ne se résume pas à cela, c'est évidemment le sujet central de notre discussion. Le terme de salafisme maintenant.
Alors juste une chose par rapport à ce que vous dites, je suis absolument d'accord avec cela, c'est-à-dire que on nous demande, moi je me souviens qu'après le 13 novembre, j'ai fait un article dans le Figaro où on m'a demandé surtout, ne fais pas d'amalgame, montre bien qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Précisément, il faut expliquer l'amalgame qui existe. Bien sûr qu'il a un sens, cet amalgame. Parce que, précisément, c'est sur la base des lois islamiques, de l'islam en tant que culture de civilisation, eh bien, qu'il y a un détournement qui se produit par ces personnes qui veulent justement être plus musulmans que les autres, et donc être plus rigoristes et même plus violents, quitte à être plus violents. Et donc cette idée-là, voilà, il faut la retenir. Le salafisme, justement, il sert aussi au discours des salafo-djihadistes ou de ce qu'on appelle les takfiristes. Les takfiristes, c'est véritablement l'État islamique qui décide d'excommunier tous les impies.
Takfir veut dire que l'on décide de qui on doit excommunier.
C'est l'excommunication de tout impie qui ne correspond pas, qui ne pense pas de la manière, justement, du bon musulman, selon nous. Hein, ça vient de Saïd Qutb, ce takfirisme. Il a produit cette idéologie qui va être enserrée, effectivement, dans le djihadisme, dans les geôles du Caire, en prison, quand il a été, effectivement, réprimé par Nasser. Et donc, le salafisme, c'est la salafia qui va naître donc au début du 19e siècle, quasiment voilà, quelques années après que le wahhabisme arrive en Arabie Saoudite. Vous avez la salafia qui n'est pas... En fait, le salafisme, qui va être une école de pensée finalement produite par des gens qui vont vouloir remettre l'islam au centre, en fait, du débat politique, au centre également de la vie, de la société d'Arabes musulmans qui sont finalement à cette époque sous le joug, souvenez-vous, de l'Empire ottoman, hein, et qui sont en proie aussi à l'arrivée, conquête des Occidentaux qui reviennent coloniser, bien sûr, le monde moyen-oriental à ce moment-là. Et donc, on va voir ce salafisme qui va se nourrir, en fait, d'une volonté, finalement, de rénovation de l'islam, en remettant le texte fondamental au centre de la lecture, eh bien, du musulman. Sauf que, eh bien, cette salafia ne va pas pouvoir véritablement émerger en tant que courant politique ou même en tant que courant qui fasse justement, eh bien, qui devienne majoritaire. Et au XXe siècle, avec donc, je passe vite, mais la déliquescence du Moyen-Orient, enfin la restructuration du Moyen-Orient après la chute de l'Empire ottoman à partir du traité de Sèvres en 1920, on va avoir donc les frères musulmans qui vont émerger en 1928 et cette salafia qui va se muer en une forme de courant qui va être beaucoup plus rigoriste et qui va se replier davantage sur les valeurs eh bien, d'un islam fondamentaliste qu'auparavant, que ce qui avait été pensé en fait au 19e siècle. C'était moderniste au départ. Il y avait une idée d'aller de l'avant. Là, on va avoir un repli parce que manifestement, ce courant de pensée n'a pas pu émerger et se propager.
Alors, si je vous résume, il y a ces intellectuels musulmans de la fin du 19e siècle qui parlent de...
Début du 19e, pardon.
Oui, et puis ultérieurement, au début du 20e siècle, Mohamed Abdou, Alaa Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Reza, et ce dernier, par exemple, si j'ai bien compris, est en partie d'une analyse très rationnelle de l'islam et de la nécessité pour l'islam de se modifier, a finalement peu à peu bifurqué vers un soutien vers le wahhabisme des Saoudiens.
Vous avez vraiment c'est assez compliqué à comprendre, mais finalement le wahhabisme et le salafisme se rejoignent dans leur lecture et leur interprétation très rigoriste et fondamentaliste du Coran. En revanche, ils ne conçoivent pas la même chose de l'autorité. Les wahhabites sont complètement liés, vous le savez, à la famille Saoud, puisqu'il y a eu un pacte au XVIIIe siècle entre Ibn Abd al-Wahhab et Ibn Saoud. Et à partir de ce moment-là, il y a une congruence entre le conseiller des oulémas et la famille princière saoudienne. Les salafistes, eux, se sont décorrélés de cette volonté qu'il y ait une autorité politique qui soit aussi manifeste que ce que les wahhabites acceptent. Mais concrètement, le wahhabo-salafisme, effectivement, va émerger à partir des années 40-50 et va devenir véritablement un soft power que les Saoudiens vont exporter, avec en face un concurrent, si je puis dire, qui va être leur allié, puis ensuite eh bien, leur ennemi, les frères musulmans.
Alors justement, j'ai personnellement rencontré un ministre des Affaires étrangères français, quand j'étais président du CRIF, et qui m'a dit que dans la situation, on parlait de Al-Qaïda, il n'y avait pas d'État islamique, il fallait bien pour lutter contre Al-Qaïda, il fallait bien s'appuyer sur ceux qui en étaient le plus proches, mais qui en étaient les ennemis, c'est-à-dire les frères musulmans. Moi, ma question, je trouve que c'est une attitude je trouvais déjà à cette époque que c'est une attitude extrêmement dangereuse. Ma question est que souvent on nous fait cette opposition entre les frères musulmans, création en Égypte, et ensuite les fondamentalistes salafistes dont une grande partie sont des adeptes du djihad, du petit djihad, du djihad violent. Mais on oublie de dire que les deux tendances se sont largement rejointes et ont collaboré, se sont fusionnées en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette situation qui, quand même, à la base de l'idéologie actuelle du djihadisme?
Bien sûr. Alors, juste pour précision, dans mon ouvrage donc paru en 2018, L'islamisme au pouvoir, j'évoque, à un moment donné, j'écris un sous-titre qui s'intitule Un frère musulman n'est pas un salafiste. Et ensuite, j'évoque la salafisation des frères musulmans, pour illustrer votre propos. Évidemment, quand les frères musulmans, donc effectivement, dont le berceau est au Caire, Hassan al-Banna en 1928, le grand-père de Tariq Ramadan, crée cette confrérie, et le terme est important et on doit le souligner, cette confrérie qui a pour but, avec des intellectuels, hein, bien sûr, de réfléchir à la manière dont l'islam peut s'incarner politiquement et au niveau de la société, il y a une volonté d'existence politique très claire. On parle justement d'islamisme politique, pour le coup. Et quand Nasser, donc, emprunt de son panarabisme, et pourvoyeur finalement de fond du panarabisme également, va vouloir réprimer ses frères musulmans, ils vont effectivement migrer en Arabie Saoudite, qui est en train de complètement émerger au niveau économique parce que les pétrodollars, hein, bien sûr, dans les années 50-60. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose, effectivement. C'est que vous allez avoir la création d'un mouvement qui s'appelle Sarwa, hein, qui va manifestement montrer que, eh bien, on va avoir une porosité entre les frères musulmans, d'un côté, et les salafistes. Les salafistes, pour être schématiques, cherchent à s'exporter et à trouver un mode d'action avec une organisation que les frères ont complètement constitué, ils savent faire, ils ont un savoir-faire, si vous voulez, dans l'organisation, dans la manière justement dont vous allez exporter, vous adresser aux autres, communiquer aussi. Donc ça, les salafistes et les saoudiens vont emprunter ces moteurs d'action et vont pouvoir s'exporter dans le monde occidental d'ailleurs, grâce à la Ligue islamique mondiale. D'un autre côté, les frères musulmans, eux, n'ont pas un contenu idéologique aussi, je dirais, dense et aussi structuré et aussi complet que ce que les salafistes peuvent offrir. Et donc, à partir des années 70 et plutôt 80, on va avoir progressivement une salafisation des frères musulmans qui vont commencer à emprunter, eh bien, la tenue vestimentaire davantage des salafistes, qui vont commencer à avoir des barbes, ils n'en avaient aucune dans les années 50, des barbes en broussaille, qui vont manifestement montrer leur appartenance à un islam beaucoup plus rigoriste. Ils ont un islam intellectuel, sont des intellectuels encore une fois, qui pensent au projet politique, beaucoup plus que les salafistes qui ne pensent pas au projet politique. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont une famille aussi au-dessus d'eux, qui sont les Saouds, qui gouvernent, donc il n'y a pas à penser à la sphère politique, ils sont quiétistes, pour la plupart. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une congruence. Si vous regardez bien les choses aujourd'hui, vous avez à la fois un contenu donc idéologique des frères musulmans qui s'est salafisé, et en même temps des salafistes, par exemple en Égypte, avec le parti Al-Nour, qui se sont politisés. Donc cette famille islamiste, elle s'est à la fois différenciée, mais aussi, elle a également, vous l'avez utilisé le mot, c'est vrai, fusionné. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Et là intervient le djihadisme, justement, qui va se détacher complètement des uns et des autres pour agir avec violence, avec force, et qui veut le pouvoir, voilà, de manière extrêmement rapide, alors que les frères musulmans vont avoir un agenda beaucoup plus long-termiste.
C'est une question essentiellement de court terme, long terme, le faire de façon violente le plus vite possible, et ou le faire petit à petit par progression dans ce monde qui n'est, et notamment dans ce monde qui n'est pas le monde où l'islam est majoritaire.
La temporalité et les moyens, voilà.
Donc, ce qui signifie que on parle tout le temps d'amalgame, hein, mais finalement. Il n'y a pas peut-être d'amalgame à faire entre les frères musulmans et puis les djihadistes, mais il y a tous les intermédiaires qui sont possibles entre les qui se et qui ont eu lieu et qui ont lieu à l'heure actuelle entre les uns et les autres.
Bien sûr. Quand vous prenez par exemple l'exemple de Rachid Ranouchi, qui est le leader actuel des Narda, premier parti donc tunisien qui a le plus de en fait de sièges au Parlement tunisien, et Narda, c'est finalement avant c'était le MTI, mouvement de la tendance islamique tunisien, qui était clairement une mouvance qui a pu être qui a été clandestine et qui a été djihadiste. Il y a eu un exil, ils ont été réprimés, je passe les détails par Ben Ali notamment, ils ont été réprimés, ils sont partis 20 ans, Rachid Ranouchi s'est commué en leader politique acceptable, démocrate, en 30 ans. Il est passé finalement d'un salafiste à tendance salafo-djihadiste en un leader politique reconnu, démocrate, dans un pays qui s'est complètement transformé. Donc, si vous voulez, on a évidemment des ponts, des porosités, mais on ne doit pas systématiquement les mettre en place non plus. On a des histoires nationales à prendre en compte. Et je trouve que, finalement, dans notre débat actuel, on ne prend pas assez l'histoire nationale en compte. En Algérie, il se passe autre chose que ce qui se passe en Tunisie, ou au Maroc, ou en Égypte. Vous voyez ?
Mais la question de la différence et du conflit éventuellement des uns avec les autres est à prendre avec beaucoup de nuances. Dernière source de conflit qui paraît parfois mise au premier rang et parfois et pour certains qui est trop mise au premier rang, c'est celui entre les chiites contre les sunnites. On a l'impression quand même que les frères musulmans, notamment, ont été assez bien vus dans le monde chiite, que Khomeini, dans sa jeunesse, en a été un partisan, n'est-ce pas ?
Absolument. Et il faut rappeler toujours qu'après 79, après donc la révolution islamique en Iran, vous aviez des ambassades qui partaient d'Égypte, qui partaient de Tunisie, qui allaient à Téhéran pour comprendre comment ils avaient fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont réussi, eux, à prendre le pouvoir par la révolution. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit dire, parce qu'aujourd'hui, les organisations terroristes mettent en avant notamment l'État islamique, les rafidites, c'est-à-dire le terme péjoratif pour les chiites, et à la base, on a évidemment des liens, et cette opposition n'est pas automatique, évidemment.
Merci, et merci Anne-Clémentine Larocque. Nous avons essayé, dans ces quelques brèves minutes, de montrer que les interactions entre les différents mouvements étaient beaucoup plus complexes que celles qui sont habituellement indiquées. Et j'espère que nous aurons l'occasion de reprendre cette conversation sur d'autres thèmes de votre compétence.
Avec plaisir.